Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue sur le webcast Investisseurs particuliers, résultats à reflet à 18 mois de GeneSight Biologics. Pendant la durée de l'appel, vous serez uniquement en écoute, mais il est possible de poser des questions via webcast. Je vais donner maintenant la parole à Monsieur Bernard Gilly, cofondateur et directeur général de GeneSight, pour commencer la conférence d'aujourd'hui. Monsieur, c'est à vous.
Merci, bonjour à toutes et à tous et merci de votre présence pour ce nouveau contact. Ça faisait à peu près un an qu'on s'était parlé la dernière fois, quand vous avez expliqué les résultats des dernières études cliniques. Alors, ça commence à faire beaucoup de résultats. Maintenant, il y a l'étude de Reflect, donc je pense que c'était important pour nous de décrypter avec vous ces derniers résultats qui sont vraiment positifs, qui vont toujours dans le même sens de l'efficacité de l'UMEVOC. Donc, finalement, c'est une bonne nouvelle et c'est bien de décrypter avec vous et avec votre soutien une bonne nouvelle. Pendant ce temps-là, évidemment, on continue de pousser nos efforts pour l'approbation du produit au niveau européen, bien sûr, mais aussi au niveau nord-américain. Et les résultats de cette étude Reflect vont nous permettre maintenant d'engager plus avant les hostilités avec les autorités américaines et en Europe. Vous savez aussi, on ne va pas en parler aujourd'hui parce que vraiment ça va être vraiment autour de Reflect. Vous savez aussi qu'on a eu cette ATU de cohorte en France annoncée en début de semaine, ce qui est de nouveau évidemment nous conforte, mais nous également signale l'intérêt que portent les autorités réglementaires à l'UMEVOC et ça c'est vraiment un signe très important. Alors, pour parler de Reflect, aujourd'hui, j'ai avec moi, bien sûr, Magali Tailleul, notre directrice médicale, qui vous présentera un peu le design et puis les premiers éléments de cette étude. Et puis surtout, je voudrais vraiment le remercier, le professeur Tailleul, comme vous le savez, qui est cofondateur de GeneSight et qui vous expliquera plus en détail ses résultats de Reflect de façon à ce que tout le monde ait bien ça en tête. On a de nous aussi un événement vendredi, aussi pour tous les investisseurs, dans lequel probablement on va amener de nouveaux résultats qui vont toujours dans le bon sens. Et vous pouvez, pendant toute notre présentation, poser des questions sur le chat pour que nous y répondions juste après. Magali.
Merci Bernard. Donc je vais vous présenter principalement le design de cette étude et les caractéristiques de la population. Alors, tous les patients avaient leur premier œil affecté, c'est-à-dire celui qui déclare le premier la maladie traitée par le produit, par l'UMEVOC. Et ensuite, il y avait la moitié des patients qui recevaient donc une véritable injection de placebo, ou bien avaient au niveau de leur deuxième œil une injection d'UMEVOC. Donc, il faut bien comprendre ce design parce qu'après, on va parler de quatre groupes d'yeux. Donc, les premiers yeux affectés ont été traités par l'UMEVOC, les deuxièmes yeux affectés ont été traités par l'UMEVOC, et aussi les deuxièmes yeux affectés traités par placebo. Donc il y aura quatre groupes d'yeux parce qu'il y a en fait deux populations bien distinctes, des traitements traités bilatéralement avec le produit actif, l'UMEVOC, et des patients traités unilatéralement avec un seul œil injecté par le produit l'UMEVOC. Donc la population, c'est une population de patients qui ont une neuropathie optique à l'hyper et l'hyper et liée à la mutation sur le gène MB4, qui est une population, comme vous savez. Ils ont tous au moins 15 ans au début de la perte du don. Et le critère d'évaluation principal, en fait, c'est la différence en termes de changement d'acuité visuelle par rapport à la baseline entre les deuxièmes yeux, donc les deuxièmes yeux qui ont été traités par l'UMEVOC versus ceux qui ont été traités par une véritable injection de placebo. Prochaine diapositive. Donc, très rapidement, ce qu'il faut revenir, c'est qu'il y a 98 patients qui ont été inclus et traités dans cette étude. On a 94 patients qui ont leur critère d'évaluation principale. Je vous rappelle que le Reflect était dans le contexte de Covid et que malgré ce contexte qui était difficile pour les patients de revenir dans les sites investigateurs, on a réussi à avoir une très bonne qualité en termes de données. Prochaine diapositive. Donc, la population, elle est classique, une population de neuropathie optique à l'hyper de Leber, c'est-à-dire les jeunes, la trentaine et la plupart du temps des hommes à 80%. Prochaine slide. Voilà, donc si vous voulez regarder un peu les détails en termes de population, qu'il faut retenir, c'est que ces patients donc, étaient traités dans l'année après leur baisse de libido en moyenne. Quand on regarde la population, ils ont été traités 8 mois après le début de leur baisse de vision. Et puis, ils avaient une acuité visuelle au départ très limitée, donc qui était un peu plus limitée dans le premier œil que dans les deuxièmes yeux, ce qui est assez classique, puisque les premiers yeux sont affectés il y a plus longtemps. Mais globalement, il faut revenir que cette acuité visuelle, elle est bien inférieure à un rapport. Voilà, ben, maintenant je vais passer la parole au professeur José Saez qui va rentrer dans les résultats de l'étude.
Bonjour, donc on va décrire successivement les résultats en fonction de la dose, que l'injection soit bilatérale ou unilatérale. Donc sur cette diapositive, l'acuité visuelle de départ a été normalisée pour partir du même point. L'objectif c'est de montrer la différence entre l'acuité à l'infusion, au moment du traitement, et l'acuité à 1 an et demi, qui est le point d'importance qui a été analysé ici. Donc la courbe que vous avez en rouge correspond aux patients qui ont été traités de manière bilatérale, et c'est l'effet sur le premier œil qui a été traité, donc le premier œil affecté. Comme vous le savez, dans cette maladie, le premier œil est affecté, et en général, dans les 2 à 6 mois qui suivent, le deuxième œil est affecté. Les deux yeux ont été traités au même moment, mais donc c'est le premier œil malade qui a été traité dans ce niveau-là. Comme vous pouvez le voir, il y a une très importante amélioration des critères visuels, puisqu'on est à une douzaine de lettres qu'on va revoir, et que c'est statistiquement significatif. La courbe qui est juste en dessous, donc c'est une courbe qui est en orange, qui elle va décrire le deuxième œil chez ces patients donc, qui ont été traités de manière bilatérale. Comme vous pouvez le comprendre, ce deuxième œil a été affecté un peu après dans l'évolution. On comparera peut-être par rapport aux études qui ont été publiées précédemment, donc Reverse et Rescue. Donc on est plutôt dans un schéma qui se rapproche du Rescue, c'est-à-dire en général un peu moins de 6 mois après l'arrivée de la maladie, alors que le premier œil, comme vous l'avez entendu avec Nathalie, c'était plutôt dans les 8 mois. Et là aussi, on a une amélioration de l'acuité visuelle, qui est de l'ordre à peu près 8 lettres, qui est statistiquement significative. On regarde maintenant les patients qui ont été traités de manière unilatérale, c'est-à-dire que le premier œil affecté a reçu l'injection de Nevoc, alors que le deuxième œil a reçu une injection de sérum, donc un sans effet thérapeutique, ce qui a fait un placebo. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que le premier œil traité a eu aussi une amélioration de l'acuité visuelle qui est importante, puisqu'on est aussi à 8 lettres d'amélioration de l'acuité visuelle, mais moins importante que ce qu'on a eu pour les patients traités de manière bilatérale sur le premier œil. Et enfin, quand on regarde l'œil qui a reçu une injection simplement de sérum, il y a encore un effet d'amélioration qui est connu de ce moment de toutes les études que nous avons publiées, montrant qu'il y avait un petit effet bilatéral, enfin un effet bilatéral de l'injection avec un passage probable du produit dans l'autre œil et sans doute des effets au niveau central aussi. Et là, on a une amélioration de l'acuité visuelle, mais qui est beaucoup moins importante, mais qui existe aussi, et qui là n'est pas statistiquement significatif. Donc il y a ce qu'on appelle un effet dose, selon qu'on est sur un traitement bilatéral ou qu'on est sur un traitement unilatéral, avec une différence entre le premier et le deuxième œil qui correspond dans le cas bilatéral à la différence d'arrivée de la maladie, du moment où la baisse de vision est survenue, dans le cas des patients traitant unilatéral, c'est la différence entre le produit actif et le sérum. Sur la diapo suivante, on a donc les résultats qui sont disposés sous forme numérique avec l'amélioration de 12 lettres pour le premier œil des patients traités de manière bilatérale, alors qu'elle est de 8 lettres sur le deuxième œil. Et pour les patients qui ont été traités de manière unilatérale, on a 8 lettres d'amélioration sur le premier œil et on a 4 lettres d'amélioration sur le deuxième œil. Et ce chiffre seul n'est pas significatif, tous les autres sont statistiquement significatifs. Alors quand on regarde maintenant les 4 courbes, cette fois-ci en ne normalisant pas l'acuité visuelle de départ, et donc ça correspond à l'histoire de la maladie. Le premier œil affecté était donc diagnostiqué avec une baisse de vision très importante, comme on voit chez les patients, parce qu'ils avaient l'indication la plus sévère avec une baisse profonde d'acuité visuelle. Le deuxième œil, lui, va être affecté, soit il est déjà affecté au moment du traitement, soit va l'être très rapidement après, puisqu'en général, dans une moyenne entre 2 et 6 mois, au maximum 1 an, l'acuité visuelle va baisser sur 2. Et là, si vous reprenez, ce sont les mêmes couleurs. Donc la courbe en rouge, on voit l'amélioration de l'acuité visuelle par rapport à l'entrée dans l'étude. Et quand on voit la courbe en jaune, ça commence un peu plus haut, puisque ça a commencé un peu plus tard dans l'évolution de la maladie, mais il y a aussi une amélioration qui est du coup un peu moins importante. On arrive en fait à la même acuité visuelle entre les deux yeux, donc c'est cohérent en termes d'effet thérapeutique. Quand on regarde les patients traités unilatéralement, donc la courbe en vert correspond au premier œil traité, et là on a une amélioration, comme on l'a dit, d'à peu près 8 lettres, alors que le deuxième œil qui est affecté un peu plus tard, qui commence aussi un peu plus haut en termes d'acuité visuelle, va s'améliorer, mais beaucoup moins, avec un effet qui n'est pas statistiquement significatif. Ce qu'on a aussi présenté sur cette définitive, c'est ce qu'on appelle la vision on-chart et off-chart. Off-chart, c'est-à-dire que ce sont des patients qui ne sont pas capables de lire des lettres du tout, ils sont simplement capables de compter les doigts ou parfois simplement par la lumière. Et donc, c'est le passage entre le off-chart et le on-chart. Et donc, on peut le voir dans cette étude, dans les premiers jeux traités, on commence en général off-chart, donc avec une activité visuelle non mesurable ou à peine mesurable. Et donc, vont passer, on va le voir tout à l'heure de façon très claire, en situation de pouvoir de nouveau lire, reconnaître les lettres. Finalement, c'est quelque chose qui est important pour les patients. La diapositive suivante. Alors, ici, on va voir l'amélioration par rapport à ce qu'on appelle le nadir. Le nadir, c'est un mot qui tout le monde ne connaît pas, même nous, ça a été un apprentissage par rapport à ce terme. Le nadir, c'est le point le plus bas de l'activité visuelle. Après le traitement, l'effet de la thérapie génique n'est pas immédiat. Il faut le temps que la protéine soit exprimée. Il faut aussi réaliser que nous sommes sur des yeux qui sont dans une crise massive, puisque en quelques semaines, ces yeux qui voyaient normalement jusque-là ont perdu leur fonctionnalité, avec souvent un œdème au niveau des fibres, et donc il y a un certain temps avant que le produit ait un effet. Et donc la vision continue à baisser au tout début de l'étude. Donc ça, c'est qu'on l'a publié, c'est d'autres groupes ont publié, ce terme de nadir, c'est pas nous qui l'avons inventé. Donc c'est le point le plus bas. Et quand on compare par rapport à ce point le plus bas, l'effet thérapeutique à la fin de l'étude, enfin, donc à un an et demi par rapport à l'injection, on voit qu'on a 19 lettres d'amélioration par rapport au point d'entrée pour les patients qui ont été traités de manière bilatérale sur le premier œil, ce qui est évidemment très significatif, parce que ça correspond à plus de 3 lignes d'acuité visuelle, parce que 3 lignes, c'est le critère classique pour la LGA d'amélioration significative. Le deuxième œil qui a été traité, donc latéral, a lui aussi une amélioration de 16 lettres par rapport au nadir. Et donc là, quand on regarde par rapport au nadir, cette fois-ci, on va vraiment normaliser par rapport au point le plus bas de l'acuité visuelle de manière générale. La même chose est observée pour le premier œil traité, donc on est à 19 lettres sur le premier œil traité. Et on va avoir donc sur le deuxième traité un effet à 13 lettres. Donc on retrouve l'effet bilatéral. Et par rapport au nadir, on a un effet qui est statistiquement significatif. La diapositive suivante. Alors quand on regarde ce qu'on appelle les taux de réponse sur le nombre de patients répondeurs, puisqu'on peut dire qu'il y a fait des moyennes, il y a peut-être des très bons et des moins bons, et là c'est assez cohérent aussi. On s'aperçoit que pour les yeux qui sont traités de manière bilatérale, donc le premier œil, il y a un taux de répondeur qui va donc être une amélioration, donc on rappelle, de au moins 3 lignes, donc 0,3 logmar. 3 lignes donc, par rapport au point de départ, et on a 63% de patients répondeurs pour le premier œil traité et 57% pour le deuxième œil traité en bilatéral. Quand on regarde pour les patients traités en bilatéral, on a 54% et 46%, donc ils sont assez proches, même s'il y a une petite différence, mais qui n'est pas majeure. Maintenant, quand on regarde la capacité d'avoir une réponse sur au moins un des deux yeux, on est sur des chiffres qui sont assez proches, entre 85% de réponse pour le groupe de patients traités de manière bilatérale et 64% de réponse pour le groupe de patients traités de manière unilatérale. Donc il y a 1,3 fois plus de chances d'avoir une amélioration en bilatéral par rapport à unilatéral, parce que finalement la question qui a été posée de façon répétée quand nous avons présenté les études précédentes, c'est finalement quel est l'intérêt de traiter les deux yeux s'il y a une amélioration sur l'autre œil. Il y a quand même un effet qui est plus important sur le premier œil et sur le deuxième œil, même si cet effet n'est pas massif, mais tout à fait clair et reproductif. La diapositive suivante. Donc, quand on regarde le passage du off-chart, c'est-à-dire la capacité entre ne pas pouvoir lire au début de l'étude et la capacité de lecture après l'étude, donc avec ce qu'on appelle un logmar de 1,6, à un an et demi après l'injection, on retrouve des chiffres qui sont assez proches de ce qu'on vient de décrire, avec un taux de répondeur qui va être à 81% pour le premier œil, 73% pour le deuxième œil pour les patients traités en bilatéral, 68% et 68% aussi pour les patients traités en unilatéral, avec donc la probabilité d'avoir une amélioration sur au moins un des deux yeux, 85% dans le groupe traitant en bilatéral, versus 72% pour les patients traités en unilatéral. Et donc, il y a aussi un effet qui est clair en faveur d'un traitement bilatéral chez les patients. Diapositive suivante. Donc, en conclusion rapide, c'est juste pour redire une chose, on a quelque chose qui est tout à fait cohérent avec ce qui a été présenté dans Reverse et Rescue, en se rappelant que le premier œil est plutôt un œil de type Reverse et le deuxième œil plutôt un œil de type Rescue. C'est juste l'histoire de la maladie qui fait ça, c'est un choix que nous avons fait. Donc, c'est complètement cohérent. Il y a toujours un petit effet bilatéral, mais un effet de contrôle latéral du traitement, mais avec une tendance à l'amélioration plus importante pour les yeux traités en bilatéral. Donc, on peut s'arrêter là-dessus. Et rappeler donc que l'importance c'est que cette soit cohérente avec les précédentes et permettre de déterminer s'il y a un intérêt pour les patients à être traités en bilatéral par rapport au unilatéral. L'effet n'est pas massif, mais bon, là on parle de synthèse, c'est pas une ligne sur la charte de visuel. Et d'autre part, on est à un point qui est sans doute le premier point dans l'évolution de la maladie, comme on l'a appelé avec Traverse et Rescue, où on peut commencer à observer un bénéfice thérapeutique, ce qui a été le point choisi pour ça un an et demi. Évidemment, l'histoire va continuer. Il y a d'autres analyses qui sont en cours, qui vont sans doute être présentées d'ici deux jours, une fois qu'elles sont finalisées, pour affiner l'analyse des données. Donc voilà, je vais m'arrêter là, et puis...
Je pense que c'est les questions et on peut prendre des questions. Peut-être que Thomas Gidon, notre directeur financier, va nous rejoindre.
Alors, c'est un peu artisanal, mais on va les afficher.
Voilà. Alors, première question, pourquoi affirmez-vous qu'il y a un effet dose ? Alors, effectivement, l'effet n'est pas statistiquement significatif, mais il est consistant. C'est-à-dire qu'on a une différence de synthèse entre les patients traités en bilatéral par rapport au unilatéral. Donc, c'est un effet qui n'est pas statistiquement significatif. On passe les informations et les publications qui sont en préparation, on le rend tout à fait clair. Mais quand vous regardez les quatre courbes qu'on a montrées au tout début, on voit très très bien qu'il y a une différence très nette entre les patients traités en bilatéral par rapport aux patients traités en unilatéral. Donc, ce qui est important, c'est de savoir est-ce que c'est significatif de pouvoir dire ça fait de plus. Ça n'est pas statistiquement significatif, mais en termes de plus, ça l'est. Mais on n'a jamais dit que c'était statistiquement significatif.
Merci. Et évidemment, comme le disait le professeur Sahel, il va y avoir de nouveaux résultats. C'est le début du plan. Vous voyez d'ailleurs que les courbes montrent une pente ascendante. Donc, on va évidemment continuer d'analyser les data et de regarder ce qui se passe chez les patients. La question suivante, c'est la FDA pourrait-elle demander une étude complémentaire ? Alors, d'abord, la FDA a tous les droits du monde et peut demander tout ce qu'elle veut. Donc, la réponse à cette question, c'est que je ne peux pas vous dire ce que va demander la FDA. Ce qui est clair, c'est qu'aujourd'hui, nous avons déposé une demande pour avoir ce qu'on appelle un pre-BLA meeting, c'est-à-dire un premier meeting avec la FDA. Les délais de la FDA sont tels que ce meeting aura lieu probablement fin mi-novembre, je pense, autour de fin octobre à mi-novembre. Et là, nous allons présenter des études. Il y a des choses qui sont extrêmement importantes dans ce que vous avez vu. C'est deux choses. La première sur laquelle José a insisté, c'est que vous voyez très bien qu'il n'y a pas de différence significative par rapport à la baseline dans l'œil injecté avec le placebo, alors que c'est le cas dans tous les autres yeux. Et même si vous allez choisir le premier œil injecté, vous avez une différence qui est énorme. Donc, le premier élément, c'est qu'on peut aujourd'hui clairement et définitivement dire qu'il n'y a pas d'effet placebo. C'était une des questions que posait la FDA par rapport à ce qu'on avait avant. C'était un sham, c'est-à-dire qu'on faisait semblant d'injecter chez le patient et la FDA considérait que peut-être le patient savait, pouvait... Bon. Aujourd'hui, avec le placebo, déjà, on règle ce problème. Et le deuxième élément, très, très, très important pour la FDA, c'est ce fameux effet dose, qui est souvent pas net et très rarement vu en thérapie génique. Mais là, pour le coup, on voit très bien que l'injection bilatérale, c'est meilleur que l'injection unilatérale. Je vous le disais, statistiquement, à 18 mois, c'est pas significatif. On va voir ce que ça donne bientôt à 2 ans. Mais je pense que ça, c'est vraiment très important pour la FDA. On va s'arc-bouter sur ces éléments et on va continuer à proposer notre produit à l'approbation aux États-Unis avec une autre dimension aux États-Unis qui existe aussi en Europe, qui est une vraie pression de la part des patients et des groupes de patients aux États-Unis. José, qui est aux États-Unis, etc. Et bien, il y a beaucoup de demandes pour des traitements compassionnels. Donc, voilà. On va aller avec tous ces éléments avec aussi quelque chose qui est très important que vous devinez à travers ce qu'on vous présente déjà depuis un moment, c'est la cohérence des data. Tous les essais cliniques qu'on a fait jusqu'à maintenant, les uns après les autres, depuis la phase 1 REVEAL, en passant par REVERSE, RESCUE, maintenant après, tous ces études cliniques donnent des résultats cohérents.
Peut-être pour revenir sur la dimension américaine, bon, la FDA décide ce qu'elle veut et elle agit de façon indépendante et parfois pas toujours prévisible, comme par rapport aux analyses qui ont pu être faites. Ce qui est clair, c'est qu'il n'y a pas aujourd'hui de traitement actif pour cette maladie. Une maladie pour cette mutation-là, qui est la plus fréquente, cette mutation est la plus sévère. Ce sont des patients qui, moins de 15%, enfin, on a montré dans les études d'histoire naturelle, moins de 15% de ces patients vont s'améliorer. Donc, quand une famille a un enfant, un jeune adolescent ou un jeune adulte qui est affecté par la maladie, aujourd'hui, il n'y a pas d'option thérapeutique. Donc, dans les deux dernières années, le produit avait été rendu disponible Department Side dans le cadre d'un protocole compassionnel. Enfin, donc, il y avait un accès donc, gratuitement pour les patients américains. Vous savez qu'en France, en Europe, grâce à la TMU, ça a été géré de façon différente. Donc, il y avait une forte demande et régulièrement des patients qui contactent. Dans les derniers temps, à cause de Covid, il y a eu des retards à la disponibilité et on sent une très forte demande des patients qui se mobilisent pour obtenir ce traitement. Alors, peut-être une question qui n'est pas posée, c'est que il y a ce médicament qui est Hydrenone, donc on annonce des résultats, etc. Il faut savoir que tous les résultats qui sont annoncés comportent sur toutes les mutations en même temps. Et dans ces mutations, il y en a deux qui s'améliorent spontanément. Et donc, on ne peut pas vraiment, pas complètement, mais en partie spontanément. Donc, on ne peut pas complètement comparer les résultats qui sont présentés là-dessus. De toute façon, ce médicament n'est pas disponible, approuvé par la FDA aux États-Unis. Mais il a un effet peut-être, mais en attendant, l'effet est beaucoup moins important et beaucoup moins cohérent par rapport à tout ce qui est présenté. Donc, une grande demande. Après, évidemment, les agences sont les agences, elles prennent leurs décisions de façon tout à fait différente par rapport à ça.
Question suivante, c'est les résultats de réflexe peuvent-ils avoir un impact sur le prix du médicament? Honnêtement, je ne pense pas. En tout cas, le prix du médicament est évidemment déterminé par son efficacité et sa sécurité. Ça, c'est vraiment l'objet des agences réglementaires. Après, ce sont des négociations. Est-ce que les compagnies d'appel les payeurs? En Europe, c'est des organismes de type sécurité sociale dans la quasi-totalité des pays. Aux États-Unis, c'est la plupart du temps des assureurs privés. Et eux, en réalité, ce qu'ils vont regarder surtout, c'est le changement que ça apporte à la vie des patients. Et donc là, pour ces aspects de prix, vraiment, ce qui est très important, on l'a pas encore montré, enfin, on n'a pas encore des données sur Reflex, mais on les a eues sur Reverse et sur Rescue, vous en souvenez, c'est la qualité de vie des patients. C'est-à-dire, c'est qu'est-ce que les patients peuvent faire maintenant qu'ils ont été traités, qu'ils ne pouvaient plus faire avant. Alors, s'agissant de personnes qui perdent la vue, et peut-être que José ou Vanille pourrait commenter là-dessus, la plupart du temps, quand on est off-chart, c'est qu'on n'est pas capable de pouvoir lire les plus grosses lettres, donc on ne peut pas faire grand-chose. Et vous voyez, on a vu ça dans Reverse Rescue, et on le voit dans beaucoup de patients, pratiquement presque la totalité, j'allais dire, reviennent à la capacité de voir des lettres, et donc ça change considérablement leur vie, et donc pour les payeurs, c'est quelque chose d'extrêmement important. Donc, je ne pense pas que ces résultats de Reflex vont particulièrement peser, ou dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs, sur le prix du traitement. Mais par contre, ils confirment véritablement que ce traitement a un impact sur la qualité de vie des patients, et on va le savoir dans le questionnaire.
Sur Reverse et Rescue, les résultats sont publiés maintenant. Donc, il y a différentes façons de mesurer l'impact dans la vie quotidienne et les échelles de qualité de vie. Une série d'échelles, elles ont toutes été appliquées aux patients dans les études et les résultats sont entre 70 et 90% d'amélioration des qualité de vie. Donc, avec l'effet bilatéral dans le reverse, qui est pilote, ce qui est assez rare d'ailleurs de pouvoir démontrer un bénéfice aussi important d'une thérapeutique comme le Bernard, passer de ne pas pouvoir lire des lettres à pouvoir lire des lettres, c'est-à-dire qu'il y a toute une série de détails de l'écosystème qui, d'un seul coup, deviennent de niveau perspective et donc peuvent être intégrés dans différents états.
Merci, José. Quelles sont les prochaines étapes et délais suite à Reflex? Tiens, Magali, c'est une question pour vous, ça.
Alors, les prochaines étapes, donc, comme le disait Bernard, on va aller voir les questions réglementaires, mais donc, c'est prévu fin octobre, début novembre. Donc, il nous faut toutes les données, hein, et également les données qu'on va avoir en juillet avec les critères secondaires, les résultats de CP, les résultats également de la qualité de vie, qui est extrêmement important pour l'agence. Et donc, une fois qu'on aura regroupé toutes ces données, ben, on ira les présenter auprès de la FDA pour ensuite aller vers un BLA et faire une soumission que nous envisageons de 2022. Donc, d'abord, cette étape indispensable avec la FDA, pour les données, et ensuite, notre but est de soumettre en paix l'année prochaine. Pour ce qui est de l'EMA, ça continue le process actuel. Les données Reflex vraiment soutiennent énormément le dossier EMA, puisque c'est encore une preuve d'efficacité du produit, avec 100 patients supplémentaires quasiment. Et aussi une réponse par rapport au traitement bilatéral, qui avait été une question de l'agence européenne par rapport au traitement bilatéral. Donc ça va également apporter, on va dire, une information importante au dossier et qui est tout à fait cohérente avec le package initialement soumis à la reverse RSQ. Donc, on continue le process pour resoumettre, donc, répondre à toutes les questions du
PDF. Merci Magali. Alors, je vais regrouper quelques questions qui sont en rapport avec la différence entre l'effet contralatéral qui a, comme on le sait depuis le début, hein, qui masque la différence entre les yeux traités et les yeux qui avaient été sham, et puis maintenant entre les yeux traités et l'œil placebo. Et donc, c'est en gros, c'est ce critère n'ayant pas été rempli, comment les résultats vont être évalués par la FDA. J'en ai parlé tout à l'heure, et je pense que les uns et les autres pourront éventuellement élaborer là-dessus. Aujourd'hui, on pense d'abord qu'on n'est qu'à 78 semaines, hein, un an et demi, donc il faut vraiment regarder ce qui va se passer à deux ans. Probablement, un certain nombre d'entre vous se souviennent qu'avec Reverse RSQ, on commençait à avoir les premiers résultats à 18 mois de façon significative. On les voyait un peu avant, mais évidemment, c'était mieux à 18 mois, mais c'était encore mieux à deux ans. Donc, on va attendre aussi sur les deux ans pour être totalement clair là-dessus. Mais de toute façon, comme je disais tout à l'heure, ce qui est très important, c'est cet effet dose. Cet effet dose, il est vraiment démontré et il va probablement continuer à être démontré au fil du temps. Et puis, c'est surtout cette différence qui est massive entre tous les yeux qui reçoivent un traitement et les yeux placebo qui, même s'ils évoluent, hein, et pas de question de nier l'effet bilatéral, l'effet contralatéral, pardon, puisque ce sont, on l'a vu, on continue à le voir, et aussi on a pu expliciter cet effet. On a vraiment, à partir des données sur les primates, pu expliciter la façon dont cet effet contralatéral se manifeste. Mais l'œil qui reçoit du placebo, eh ben, il a une amélioration, mais elle n'est pas statistiquement différente de Beza, et ça c'est vraiment très important. Magali, José, vous voulez rajouter quelque chose?
Ce que je veux juste rajouter, c'est que quand ces études ont été conçues, RESCO, REVERSE et même REFLECT, l'effet bilatéral n'était pas prévu. C'est-à-dire que même quand dans l'ensemble du design de ces études, quand elles ont été commencées, cet effet bilatéral n'était pas prévu. Donc la différence entre les deux yeux et la différence de traitement, cette différence elle était attendue entre pas de traitement du tout versus un traitement. L'effet bilatéral qui a été confirmé dans toutes ces études et qui a été en bonne partie expliqué dans le travail qui a été publié dans le numéro scientifique sur la diffusion contralatérale a évidemment fait que le critère de comparaison entre œil traité versus œil non traité ne pouvait pas être aussi important puisqu'il y a un effet sur l'œil bilatéral et ce n'est pas un effet psychologique parce qu'en principe, on ne voit pas très bien comment le patient ne sent même pas quel œil a été fait. On peut avoir cet effet-là. Et donc, du coup, évidemment, c'est plus difficile d'atteindre ces 15 lettres de différence entre les deux. On voit qu'il y a des différences de 15 lettres par rapport à Nadir, qu'il y a des différences de 2 lettres par rapport au point d'entrée dans l'étude, mais ce n'était pas possible d'atteindre, en fait, c'est ce qui était espéré au départ, sans connaître cet effet bilatéral. Donc, il faut tout regarder à la lumière de la connaissance de cet effet bilatéral qui permet de mettre en perspective donc, toutes les différences, elles devraient être comprises comme cela. Et ce qui est intéressant dans le réflexe, quelqu'un demande qu'est-ce qui était attendu, moi, je m'attendais parce que ça soit cohérent, mais là c'est plus que cohérent, il y a on voit la gradation, donc c'est presque mathématiquement très logique en fait qu'on observe si on essaie de calculer les différences de doses et de temps de produit. Ces effets vont dans le sens de la confirmation des effets bilatérales et dans la confirmation probable d'un traitement bilatéral sur un traitement unilatéral.
Absolument. D'ailleurs, sur la question qu'est-ce qui peut être fait, il y a en ce moment, on continue d'analyser, il y a tout un tas de critères secondaires quand on continue l'analyse. Hein, ce qu'on m'a présenté, c'était ce qu'on appelle les top line results, c'est-à-dire c'est vraiment le premier résultat les plus faciles à ce qu'on attendait en premier, mais il y a tout un tas d'éléments secondaires, dont un certain nombre, je pense, on pourra communiquer des endroits. Magali, quel commentaire, non? Alors ça c'est une question qui n'est pas pour moi, c'est quelle méthode est utilisée pour convertir la mesure off-sharp en logMAR voilà, alors je ne sais pas qui veut répondre à ça parce que moi j'en suis
alors,
pas
capable. On a utilisé une méthode en fait qui vient d'une publication qui s'appelle Carangia, c'est toujours un grand débat comment on convertit le off-sharp. Donc on a utilisé cette méthode et puis on fait aussi des analyses de sensibilité. C'est-à-dire qu'on applique off-chart d'autres critères, des critères d'autres, une autre conversion qui s'appelle l'ange. Mais tout ça pour vous dire que ce sont des critères qui sont très spécifiés. donc avant de voir les résultats, et qui sont validés évidemment avec les agences réglementaires, puisque ce protocole, vous savez qu'il a été designé avec la FDA, donc c'est un sous qu'on appelle un SPA, donc Special Protocol Assessment, et pour s'assurer justement une validation du protocole. Donc cette conversion est très spécifique. Et elle a été utilisée lors de l'analyse. Mais c'est toujours un débat, le chart, comment on convertit dans toutes les études d'ophtalmologie. Et on suit ce que nous disent aussi les agences de façon.
Dans l'avantage de cette recherche expérimentale, donc elle a été publique, et tout ça, c'est dans la littérature scientifique, et pas spécifiquement pour cette étude, ce sont des critères d'évaluation qui ont été publiés indépendamment, et ils tiennent compte de la taille des doigts, de la distance, etc. Parce que bien, vous n'êtes plus sur une échelle d'activité visuelle classique mesurable sur un écran, donc là, vous êtes sur des critères qui sont en général peu connus des ophtalmologistes, puisqu'on est en dessous de la vision mesurable. Quand on est en dessous de la vision mesurable, ça reste souvent est-ce que la main est en train de bouger, est-ce que la lumière arrive, est-ce qu'on peut voir les doigts, comment on peut les compter. Et en fait, la main d'un investigateur n'est pas la même que celle d'un autre investigateur. Donc, cette publication et la correction qui est de l'ange permettent de standardiser ces mesures-là entre différents centres, entre différents investigateurs. Mais on est du fait que ça n'est pas possible d'utiliser une échelle type échelle Monnoyer, donc une échelle sur un écran, une échelle de Snellen, puisque les lettres ne sont pas perceptibles. C'est une façon de mesurer de la manière la plus reproductive possible avec une conversion en logMA. Qui est accepté dans la littérature. Il faut quand même rappeler aussi que cette étude a été faite dans les meilleurs centres experts sur cette maladie, à la fois en Europe et aux États-Unis. Elle n'a pas été faite par des gens qui ne connaissent pas la maladie, ni par des gens qui n'ont pas l'habitude d'évaluer la vision des patients. Donc cette méthodologie, elle a été acceptée par tout le monde comme la meilleure méthodologie possible, sans dire que ce soit la méthodologie idéale.
Merci. Alors, quel rapport... Après, le critère d'évaluation principale de réflexe ayant échoué, comment l'a résultat va-t-il être évalué par l'FDA? Bon, je pense qu'on a répondu à cette question. Hein. Encore une fois, il y avait un critère principal, mais il y avait aussi des critères secondaires. Hein. N'oubliez pas que cet essai réflexe a été mené, a été conduit dans le cadre de ce qu'on appelle un Special Protocol Assessment avec l'FDA, c'est-à-dire que le protocole, le design et les résultats primaires, secondaires, etc., ont été discutés et acceptés à l'avance avec la FDA. Et donc, aujourd'hui, bah, ils vont regarder l'ensemble des résultats. Ils vont regarder, évidemment, à la fois ce qui va se passer aujourd'hui à 70 semaines, à 78 semaines, ce qui va se passer à 2 ans, mais aussi ce qui se passe aujourd'hui dans les critères secondaires et ce qui se passera aussi à 2 ans dans les critères secondaires. Donc, je pense, encore une fois, même si c'est, José le souligne encore, très difficile de savoir comment la FDA va réagir à ces résultats. En tout cas, vous pouvez être rassuré qu'on va se battre pour leur montrer les résultats qui sont vraiment très importants, encore une fois, cette cohérence et cet effet, encore une fois, y a-t-il une date pour les résultats à 24 mois de l'étude réflexe? Là, je vais me tourner vers Magali, j'allais répondre, mais je pense que Magali a...
Oui, absolument. Donc, on a une date précise, mais en tout cas, en fin d'année, on aura les patients avec des résultats à 24 mois. D'ici novembre décembre, on sera à même de partager ces résultats avec vous.
Maintenant, ça, c'est intéressant parce que, justement, ce que disait tout à l'heure, je crois que c'est Magali qui en parlait, c'est la situation de sanitaire a fait que pendant un moment, c'était très difficile de pouvoir faire revenir les patients à l'hôpital. Donc, on a beaucoup de résultats, évidemment, de patients qui, pendant un moment, ne sont pas venus. Donc, sont maintenant assez largement, presque à 2 ans pour un certain nombre. Donc, c'est assez rapide. Les résultats à 2 ans seront assez rapides maintenant, puisque la crise du Covid ayant fait qu'on a retardé les résultats de 78 semaines pour être sûr que les patients puissent venir, ben maintenant, on va aller au plus. Donc ça c'est un des résultats positifs, si on peut dire, du Covid. Quand pouvez-vous espérer une AMM? Alors, s'agissant de la réglementation européenne, hein, du dépôt de dossier qui a été fait en Europe, on attend, vous savez, on a communiqué au début de l'année que, encore une fois, à cause de la crise sanitaire, les aspects de manufacturing étaient décalés. On peut le dire très clairement, on a été... atteint parce que les Américains appellent le DPA, c'est le Defense Production Act, qui est une loi américaine qui permet au gouvernement américain de décider que la priorité sur l'utilisation de produits faits par des entreprises privées va en premier lieu à certaines utilisations et donc en l'occurrence avec, à la fabrication de vaccins. Et donc, évidemment, nous, notre partenaire américain, qui est Thermo Fisher, a été soumis à cet état. Donc, on a communiqué, je ne me souviens pas, je pense que c'était en mars ou quelque chose, voilà, en mars ou avril, et on a communiqué qu'il y avait un retard, qu'on a discuté avec l'agence européenne, et donc maintenant on est sur une reprise des discussions, enfin, donc de l'arrêt des 120 jours, fameux 120 jours, en janvier 2022, voilà, je ne trompe pas, et donc on estime que dans le premier semestre de l'année prochaine, on devrait obtenir l'autorisation de mise sur le marché en Europe. Aux États-Unis, ça va se passer de la façon suivante. Donc, on a ce qu'on appelle le pre-BLA meeting dont on peut parler tout à l'heure, novembre plutôt. Et là, après, ça veut dire qu'on aura le BLA meeting quelque part à la fin du premier trimestre de l'année prochaine, je pense. C'est-à-dire le dépôt du dossier fin du premier trimestre, disons, autour de la fin du Q1, début du Q2. Et puis, donc, une approbation par la FDA fin 2022, début 2023. Après, c'est difficile d'en juger.
Ça dépend évidemment de la date du pré-BLA meeting,
ça, voilà.
Qui n'est pas encore confirmé.
Alors, l'agenda du dépôt de dossier US pour 2022 est-il confirmé? Ben oui, je viens d'en parler. Donc, effectivement, c'est à peu près ça. C'est deuxième trimestre, fin Q1, début Q2. Encore une fois, vraiment, c'est le pré-BLA meeting qui décide de la suite des choses. Pouvez-vous confirmer que pour la FDA, l'histoire naturelle égale par rapport à placebo? Peut-être je vais laisser Magali répondre à ça. J'allais dire non, mais oui, ou pas, ça dépend. C'est pas un problème, c'est bon, c'est une comparaison.
C'est une bonne question. Donc, ce qu'on a fait, c'est que c'est pas un bras placebo, mais dans le plan d'analyse de REFLECT, on a introduit, vous savez, le bras externe contrôle avec les études d'histoire naturelle de la maladie. Donc, on va mener ces analyses pour les présenter à la FDA, donc en comparant les résultats de l'enquête, donc en bilatéral et unilatéral, versus ce bras extérieur, on va dire externe, de la naturelle historique. C'est important, parce qu'on va à nouveau démontrer, comme vous voyez, les résultats sont très bons sur ce qu'on a aujourd'hui sur le top line, on va démontrer qu'on est meilleur que l'histoire naturelle de la maladie. Et ça, c'est vraiment important pour la FDA, donc même s'ils ont ils sont moins ouverts, entre guillemets, que l'IME par rapport aux comparaisons indirectes. Malgré tout, c'est quelque chose qu'on a déjà soumis il y a quelques mois quand on a donc, mis à jour ce plan d'analyse statistique. On leur a dit qu'on allait faire une comparaison versus la nature historique. Ils ont totalement accepté dans le plan d'analyse. Donc, ça fera partie des discussions avec la FDA.
Merci Magali. Bonjour. Si le produit est vendu 700 millions, à combien estimez-vous la marge EBITDA, la marge nette, une différence de marge industrielle entre les États-Unis et l'Europe? Je vais certainement laisser Thomas répondre à cette question, juste pour dire que une chose qui est très intéressante et qui passe vraiment sur les innovations thérapeutiques depuis maintenant 2 ou 3 ans, c'est que la différence de prix entre les États-Unis et l'Europe est quasiment inexistante, hein, particulièrement vrai en thérapie génique. Thomas, pour le reste, je crois qu'on ne communique pas grand-chose.
Non, on ne communique pas grand-chose. Ce qu'on peut juste dire, c'est que c'est un produit extrêmement innovant. Donc, c'est un produit qui dégagera une marge dite de médecine de spécialité, qui est en général supérieure à 4. Une marge brute, on est d'accord. Hein, donc, vraiment, le prix de vente moins ce que ça coûte à fabriquer réellement, une marge brute supérieure à 90%. Mais c'est en ligne avec ce qu'on voit dans la médecine de spécialité, notamment dans des produits en oncologie ou je sais.
Est-il envisageable d'avoir une AMM conditionnelle de l'EMA avant l'AMM définitive? Alors, je ne crois pas que ça existe au niveau européen. Mais...
Alors, en fait, on n'a pas demandé d'AMM conditionnelle, on a demandé une AMM définitive, parce que souvent l'AMM conditionnelle, c'est quand vous avez une autre étude à faire et on vous donne l'AMM conditionnelle. Là, dans ce cadre-là, comme on n'a pas d'autre étude, comme le package est vraiment complet, on aura une AMM définitive. Alors, ce qui ne veut pas dire que parfois les autorités peuvent demander, on va dire, des suivis plus en termes de safety. Ça, c'est assez classique dans la thérapie. Mais ça sera une AMM définitive.
Merci Magali. Est-ce que les patients peuvent regarder les écrans TV ou PC sans problème? Là, je peux peut-être vous laisser répondre. Je sais, pour en avoir rencontré un hier, avant-hier, qu'il le fait sans problème, il travaille sur son PC sans problème, José,
chien. D'une manière générale, on recommande de filtrer le
difficile à lire un peu parce que la presse en était aussi, mais ça, ça s'applique à tout le monde. C'est un peu de maladie comme le couteau ou la VNRA ou la méthode. Enfin, donc, c'est quelque chose qui est un peu général, qui d'ailleurs n'est pas complètement démontré. Il vaut mieux protéger en particulier par rapport à la lumière bleue, mais ce n'est pas spécifique à la neuropathie.
Voilà, mais en tout cas, ce qui est clair, c'est que ce patient, d'ailleurs, je profite pour le saluer ici, ce qui est un. C'est un des premiers patients traités qui a maintenant 6 ans, ouais, presque 5 ans de suivi. Sa vue se maintient, il a retrouvé son travail, la capacité d'utiliser son ordinateur. Donc vraiment, c'est vraiment très clair qu'il peut l'utiliser. Est-ce que le Canada suit les décisions de la FDA? Le Canada suit les décisions de la FDA, mais il suit aussi d'autres décisions.
C'est intéressant, on a eu une réunion donc, avec les autorités canadiennes. Sont assez indépendantes. Donc, à l'époque, on n'avait pas les résultats d'une plaque. Et ils nous ont dit qu'ils étaient assez indépendants dans leur décision. Ils ne suivaient pas forcément la FDA ou l'EMA. Et d'ailleurs, il semblerait qu'ils soient aussi bien liés à l'EMA qu'à la FDA. Mais ils ont insisté sur cette indépendance et ils nous ont beaucoup aidés aussi. Ils sont très ouverts à la comparaison indirecte. Et quand on a présenté les résultats, d'ailleurs, c'était très positif. Quelque chose qu'on va poursuivre avec les autorités canadiennes.
Merci. Quel rapport envisagez-vous dans le prix d'un traitement bilatéral par rapport à un traitement unilatéral? Alors, c'est une très bonne question. On a toujours parlé, nous, de prix du traitement. On n'a jamais parlé de bilatéral ou unilatéral. Donc, je pense que quand on dit, quand on parle de 700 000 euros, c'est le prix d'un traitement des deux yeux. Et nous, nous envisageons clairement que ça doit être un traitement bilatéral. Je pense qu'il y a des raisons objectives cliniques. Hein. C'est une maladie bilatérale, qui les deux yeux sont touchés et n'en traiter qu'un seul serait assez étonnant, même s'il y a l'effet contralatéral. Je vous ai peut-être quelques...
Oui, déjà, on voit qu'il y a une petite différence entre la perspective éclairée entre les deux. Et en termes de durabilité des faits aussi, c'est retraiter à distance, c'est pas forcément idéal en termes de réponse inflammatoire, donc il vaut mieux traiter comme la CP en parallèle en même temps. Ça donne les meilleures chances aux patients. Alors, effectivement, la différence n'est pas énorme. On va voir au cours du temps si cette différence d'ailleurs se pose pas entre le traitement unilatéral versus bilatéral. Donc ça, c'est une information qui sera disponible au moment de la mise sur le marché. Mais il y a une logique pour une maladie bilatérale à traiter en bilatéral.
Merci. N'y a-t-il pas un meilleur effet bilatéral car les patients de cette étude sont au départ moins impactés par la maladie? Cooper slide on chart of chart.
Ben non, en fait, les patients, en fait, le premier œil correspond à reverse, donc c'est vraiment la même population que reverse. Et dans le. Plus les patients commencent mieux bas et plus ça mieux c'est en termes de démonstration d'effet, c'est pas mieux pour eux, mais c'est mieux en termes de différence. Et comme on l'a dit tout à l'heure, le deuxième œil étant toujours affecté par définition quelques temps après, entre quelques semaines, quelques mois, correspond en général plutôt à ce qu'on a vu en SQE. Et donc, pour analyser en détail les deux études, elles sont parallèles, elles se rejoignent d'ailleurs au cours du temps, mais il y a un effet qui est plus important au départ sur reverse parce qu'on commence les gens qui ont une évolution déjà plus avancée de la maladie. Donc, les études sont très très comparables, il n'y a pas vraiment de différence entre les études.
Merci José. Alors, on commence à s'éloigner des questions sur réflexe, mais c'est bien normal. L'autorisation EMA toujours à fin 2022 ou possible avant fin 2021? Oui, toujours à fin 2022. Ça n'a pas varié depuis le communiqué de presse de mars-avril. Je ne pense pas que ce soit possible avant fin 2021. Encore une fois, lié aux aspects du Covid qui ont retardé les aspects manufacturing qui sont nécessaires pour répondre à l'agence européenne. La cohorte ATU en France, combien de patients peuvent en profiter? Je ne sais pas répondre à cette question. Je pense qu'il y a Magali, vous savez.
Non, mais on a beaucoup de demandes, très honnêtement, et ça va faciliter le process, plus au niveau administratif, puisque l'investigateur sera pas obligé de demander pour chaque patient, mais ça va être plus tous les hôpitaux en France qui vont demander, en tout cas les centres qui connaissent bien cette maladie. Donc ça va vraiment faciliter l'accès pour les patients et on continue des demandes en France.
Je ne crois pas que la cohorte ATU mette décide un nombre de patients. En fait, on est toujours dans le cadre de l'ATU, dans le cadre de cette enveloppe qui est fixée annuellement, une enveloppe de 30 millions d'euros. Donc voilà, jusqu'à 30 millions d'euros, je pense qu'on peut on peut faire le nombre de patients qui vont. On peut en faire d'autres, mais vous savez qu'à partir de 30 millions d'euros, le prix est capé. Je crois que c'est 10 000 euros par patient au-delà de 30 millions d'euros.
Juste sur cette question de la cohorte, de la suite cohorte, moi j'ai reçu beaucoup de questions depuis le communiqué de lundi sur est-ce que vous allez traiter plus de patients avec la TU de cohorte qu'avec la TU nominative. Donc bah, je pense qu'on y a partiellement répondu. Techniquement non, l'accès aux patients existait avant, il existe toujours aujourd'hui, il est simplement facilité. Mais il n'y a pas de relation entre une ATU de cohorte va doubler le nombre de patients qu'on va traiter versus une ATU nominative. Et ça ne marche pas comme ça. J'ai reçu beaucoup de ces questions, donc voilà, je vous le précise.
Enfin, ça n'a pas un impact important sur l'accès parce que le montage d'un dossier d'ATU d'individu, donc il y a très peu de temps entre les réponses et les patients pour le faire. Avec l'ATU de cohorte, nous, on avait vu ce que c'était la fête au Sturna, donc en amont de l'organisation européenne. Donc l'Externa a été mis en ATU de cohorte 15-20, en ATU puis en ATU de cohorte 15-20, et ça a eu un effet accélérateur. Le nombre de patients est le même, il est très difficile, en fait, plutôt dans l'administratif, mais la facilité du montage de dossier, le temps de réponse aussi, parce que l'attente des patients pouvait être très très longue avec l'ATU individuel, et à un moment, il y avait un retard de plusieurs mois avant d'obtenir les réponses, et là, évidemment, ça rend les choses beaucoup plus meilleures, on se passe dans la France, mais c'est quand même un dispositif remarquable, la TU des ATU en France, et c'est quand même une facilitation, un dialogue avec les autorités qui sont à l'écoute des résultats avant qu'ils soient approuvés de façon définitive, font quand même une analyse en détail, c'est un dispositif de dialogue et qui permet de donner accès à des patients, donc surtout dans les maladies où ils sont menacés de cécité. Donc ça, on l'avait vu avec l'Externa, on le voit là-dessus, ça et le portrait innovation sont des dispositifs qui, au niveau français, ont une vraie valeur ajoutée pour les patients et pour les médecins. Qui prennent en charge parce que ça facilite considérablement. Comme l'a dit Magalie, ça va aussi permettre à d'autres centres que les cabins de pouvoir proposer ce produit à des patients. Et donc l'accès va être amélioré. Ça n'augmente pas le nombre de patients, évidemment, mais ça augmente les chances pour les patients.
Alors, je regroupe deux questions qui sont liées. Toujours, j'adore ces questions parce que je ne sais pas y répondre. C'est comment expliquez-vous que le titre ne reflète pas ces réussites ou ne valorise pas correctement les résultats comme on pouvait l'espérer. Êtes-vous attaqué en permanence, si oui, par qui, OPA, Malsen, etc. Alors, je vais sûrement laisser Thomas commenter ça plus en détail. Je ne suis pas étonné que le marché Euronext, que vous connaissez tous, ne valorise pas de la même façon que le Nasdaq. Je pense que c'est essentiellement une question du nombre d'opérateurs, c'est-à-dire la liquidité qui est sur ce marché, du nombre d'opérateurs spécialisés, d'investisseurs spécialisés dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'innovation thérapeutique, qui n'est probablement pas suffisant en France. Mais voilà, et ça rejoindra une question à laquelle on répondra tout à l'heure sûrement, mais Thomas, tu veux commenter un peu
plus? Ouais, j'ai répondu à cette question à peu près 50 fois par jour depuis la sortie des résultats d'AFEC. Mon discours est bien rodé maintenant. Je crois qu'il y a trois explications. La première, c'est que le titre a eu un rallye impressionnant depuis l'année dernière, la fin de l'année dernière, quand on a sorti la comparaison indirecte avec l'histoire naturelle. Donc, on a fait un placement privé en octobre. De mémoire, on l'a fait à 4,20 euros. Et à l'annonce des résultats, juste avant l'annonce des résultats de Reflect, on était entre 9 et 10 euros. Donc, on a plus que doublé le prix de l'action en 6 mois. Et donc ça, c'est un effet probablement lié aussi à un effet de spéculation avant les résultats de Reflect. Donc bon, c'est pas un manège, ça monte pas indéfiniment. Et ensuite, les résultats de Reflect, la deuxième explication, c'est que les résultats de Reflect, c'était un catalyseur important que les gens attendaient. Il y a beaucoup de gens qui comptaient prendre position à l'achat ou à la vente sur ce catalyseur-là. Évidemment, ceux qui sont rentrés à 4 euros 6 mois avant, quand on arrive à 9, il y a quand même une évidence que beaucoup de gens vont prendre leurs bénéfices, soit juste avant, soit juste après les résultats. Donc voilà, c'est une prise de bénéfice normale quand le cours a doublé en moins de 6 mois. C'est pas choquant. Et la troisième explication, c'est que, José l'a expliqué tout à l'heure, ces résultats, ils viennent confirmer les résultats de Rescue et Reverse. Ils viennent ajouter un petit peu de notre compréhension, notamment sur l'effet bilatéral et la tolérance d'un traitement bilatéral. Mais en soi, ce n'est pas nos premiers résultats cliniques. Donc, on ne pouvait pas doubler non plus sur ces résultats. Ce n'était pas possible. On vient confirmer. C'est une excellente nouvelle. ça amène de l'eau à notre moulin pour le dossier IMF. Ça nous met dans les meilleures conditions possibles pour la discussion à venir avec la FBI, mais en aucun cas c'était révolutionnaire au point, on n'en attendait pas une révolution au point de multiplier par deux ou par trois le cours de bourse. Donc voilà, je pense que c'est une réaction du titre qui était attendue et qui est relativement normale vu le contexte.
Comme rien à tout ça, on a été surpris à chaque fois parce que en fait, TNPAC a développé deux innovations de rupture complète, donc portée de la recharge de la vision. Premier patient au monde qui récupère sa vision en novembre génétique, personne n'y est arrivé, premier patient à portée dans le monde entier. Ça fait quand même un millier de journaux dans le monde entier qui ont repris cette nouvelle et ça n'arrête pas d'avoir encore des demandes par rapport à ça. Et première maladie mitochondriale traitée et avec un effet sur l'intellectuel, sur le spectaculaire. Pourquoi ça n'a pas d'impact sur le marché? C'est difficile à comprendre. Par contre, ça a un impact sur la vie quotidienne des gens et ça a un impact puisque ça fait franchir des frontières à la fois sur les maladies mitochondriales qui étaient considérées comme incurables et sur des questions comme la cécité des racines pigmentaires où là, on a vraiment une avenue qui s'ouvre à une perspective. Que le marché ne réagisse pas à ça, c'est partie des choses difficiles à comprendre. Mais j'avoue que si on comprenait tout, on serait encore meilleur scientifique. Mais la science de la bourse m'échappe.
Effectivement, l'annonce de Nature, et ça malheureusement, c'est on n'a pas défini les timings, mais l'annonce des résultats de GS30, qui du coup là aurait dû déclencher une vague de hausse importante, est très proche des résultats de Reflect, qui était un catalyste attendu également. Donc voilà, le timing était un peu malheureux, on l'a pas maîtrisé, mais voilà, faut se souvenir que fin 2019, on valait 1 euro, fin 2020, on valait 4 euros. Et là, 6 mois plus tard, on est à un peu plus de 8. C'est pas le pire parcours boursier qu'on ait connu quand même. C'est pas mal, c'est pas assez, mais c'est quand même pas mal. Et effectivement, il y a une seconde, on a, alors pas sans tomber dans le complotisme, on a une ou deux sociétés de gestion, dont une notamment Voléon au UK qui est bien connue, qui est en position short sur le titre, c'est-à-dire qu'ils ont vendu des actions en amont de Reflect, en espérant des résultats très négatifs qui auraient fait plonger le titre. Et ensuite, ils peuvent racheter à un prix très inférieur et ils empêchent la différence entre ce qu'ils ont vendu avec les titres qu'on leur a prêtés et ce qu'ils rachètent pour rembourser leurs créanciers. Ça ne s'est pas passé tout à fait comme ça, mais voilà, ces entreprises, elles ont des moyens et des algorithmes qui permettent de ralentir les hausses, voire d'engager des petites baisses récurrentes. Donc on a souffert pas mal de ça aussi. Ça va s'arrêter. Ils ne peuvent pas faire ça pendant 6 mois. Donc bon, ça c'est une pratique assez contestable, qui est malheureusement légale et autorisée, et qui peut avoir un impact assez délétère sur des titres qui ne sont pas de grande liquidité, comme des entreprises de notre taille.
Voilà. Je sais que sur les réseaux, vous en discutez beaucoup entre vous, et je vous assure de notre sympathie contre ces individus qui font ça. Pourquoi se limiter à faire une demande en Europe et pas le reste du monde? Alors, on fait le reste du monde. Magali parlait du Canada, on a des discussions avec l'Australie. Il y a des zones géographiques dans le monde pour lesquelles on attend d'avoir une autorisation soit de l'Agence européenne, soit de la FDA. Hein. Le Japon suit, même s'il a sa propre agence réglementaire, mais le Japon attend en général d'avoir résultats très avancés à l'FDA et en Europe. Et la Chine, c'est pareil. La Chine a une FDA chinoise qui a ses propres règlements. On commence à regarder du côté de la Chine. C'est un peu compliqué, le marché chinois est assez compliqué pour nous. Et donc voilà. Mais on regarde le reste du monde. Est-il une option de faire un partenariat pour accélérer le développement du GS30? Alors, je ne sais pas exactement ce que vous entendez par partenariat. Si vous entendez de faire un partenariat avec un grand laboratoire industriel, la réponse est non, parce que je ne pense pas que ça accélérera le développement du GS30, en tout cas pas au stade où il en est aujourd'hui. Il faut qu'on continue à aller de l'avant. On va engranger les résultats avec l'étude Pionnier, qui sont en cours d'analyse, avec les patients. Je pense que c'est très important, et je vais profiter de ça pour aussi, peut-être avec José, remercier tous les patients qui ont participé à nos essais cliniques, que ce soit GS30 ou l'UNEVOC. Parce que vraiment, c'est très important, et je pense que la décision de rentrer dans une essai clinique n'est pas forcément quelque chose d'évident. Donc je pense que, voilà, j'en profite pour les remercier. Et donc on travaille avec des patients sur les résultats de la première phase de G30. Et on est en train aujourd'hui de remettre en marche la machine, le manufacturing, pour pouvoir avancer le plus vite possible vers un essai pivot de G30. Mais je ne crois pas qu'un partenariat aujourd'hui avec un laboratoire pharmaceutique serait de nature à booster véritablement les choses.
On peut ajouter à ça, il y a une particularité sur GS30, c'est que c'est à la fois un produit thérapeutique et aussi un médical device, donc c'est un dispositif médical couplé à ça, et il y a une rééducation qui va derrière. Donc il y a trois parties dans un succès thérapeutique chez ces patients. Aujourd'hui, il n'y a pas d'industriel qui ait ces trois valences intégrées, c'est-à-dire qu'on a soit des gens qui sont dans le domaine de biothérapie ou de la pharma, soit des gens qui sont dans le domaine du médical device, et on a des gens qui travaillent sur la rééducation qui n'auraient pas un grand business. Donc la particularité, c'était à l'origine de la création de Insight, vraiment voulu créer une société qui soit dans l'innovation de rupture, et une partie de l'innovation de rupture, c'était de créer un modèle où il y avait toutes ces compétences assemblées dans la même entreprise, avec un dialogue constant entre ceux qui développent les lunettes, parce qu'il fallait que les longueurs d'onde, la éviter toute toxicité, le codage de l'information, puisqu'il y a des neurosciences cognitives, computationnelles, tout ça devait être intégré dans cette approche. Et je crois que Genentech a recruté récemment justement un petit technical officer pour continuer à développer les lunettes, puisque maintenant qu'on a de premiers patients, puisque les discussions avec les patients nous apprennent de plus en plus comment la vision se remet en place, du coup ça nous permet d'améliorer les protocoles de rééducation, le protocole de codage de l'information. Ce qu'il faut rappeler aussi, c'est qu'avant le patient qui a été rapporté, il y a eu d'énormes travaux qui ont été faits chez l'animal, en préclinique, pour comprendre les différents paramètres. Donc c'est un produit complexe, c'est un produit extrêmement innovant et qui requiert une équipe vraiment multidisciplinaire. Il n'y a pas aujourd'hui de grand industriel qui assemble l'ensemble de ses compétences pour le faire. Donc il y a une logique à garder cette intégration dans une entreprise. Parce que moi, je ne suis pas dans l'entreprise moi-même, mais je pense qu'il y a une logique à ça. Et en attendant, du point de vue des scientifiques et des médecins qui travaillent avec les patients, d'avoir un interlocuteur unique qui soit capable de s'adapter à ses besoins, c'est fondamental.
Merci, José. Alors, il y a beaucoup, beaucoup de questions et le temps passe. Deux questions encore sur, qui sont vraiment sur un réflexe. Les résultats de réflexe à 18 mois comparent aux résultats de réflexe et réverse à 18 mois, montrent-ils aussi une amélioration plus efficace pour les patients faits bilatéralement? Alors, je pense que oui.
Oui, absolument. Et puis, si vous avez l'occasion de vous connecter vendredi, on va montrer effectivement ces éléments en bilatéral à un an et demi. Oui, on est meilleur que Reverse RSP, les patients qui sont traités bilatéralement. Et à nouveau, ça confirme ce qu'on voit dans une flèche. Donc, on a vraiment une cohérence dans les résultats de nos trois études.
Sur le graphique, le patient injecté unilatéralement semble avoir démarré l'étude avec une vision moins bonne que ceux traités bilatéralement. Ceci peut-il expliquer l'amélioration meilleure pour l'injection bilatérale, étant donné qu'en moyenne, il a arrêté avec une meilleure vision? Je ne suis pas sûr que ce soit le cas.
Alors, en fait, dans la différence, je ne peux pas avec le travail, je crois. Et surtout, quand on a normalisé les effets visuels, la première courbe que j'ai montrée, c'est pas seulement le téléphone, mais que la normalisation au point de départ élimine justement cette différence qui pourrait être. On peut dire que les courbes ne sont pas les mêmes. Mais quand on normalise par rapport à la différence, elle est très claire en réalité entre les deux. Elle est très claire, même si encore une fois, elle est statistiquement significative par rapport au baseline, elle n'est pas statistiquement significative entre les différents bras d'études. Voilà, mais c'est normalisé.
L'injection du mérite nécessitait un traitement immunosuppresseur préalablement.
Alors, ce qu'on a fait effectivement dans Reflect, parce que la moitié des patients étaient traités bilatéralement, on a couvert le geste par des corticoïdes oraux jusqu'à un mois après l'injection. On l'a pas fait dans Reverse RSQ et on voit que la tolérance elle est excellente dans toutes les études. Alors, c'est vrai qu'on va recommander vraisemblablement un traitement par corticoïdes oraux, mais ça sera laissé à la décision de l'investigateur. Mais ça avait du sens dans Reflect.
Une des raisons de le faire, c'est que les patients n'habitent pas tous à proximité des centres experts sur ces maladies-là. Et donc, ils ne peuvent pas toujours être suivis de façon très précise. On a pu faire en France, dans le plein milieu, où les patients sont extrêmement rapprochés. Il n'y avait pas forcément une nécessité de couvrir cette période par des anti-inflammatoires. Mais pour des patients qui vivent dans d'autres états, par exemple aux États-Unis, et qui sont réagés, ils n'étaient pas forcément vus dans les jours qui suivaient les injections. Donc, c'était une meilleure façon d'éviter d'avoir un risque d'inflammation post-opératoire. Et donc, ça couvrait cette période-là. D'ailleurs, c'est le cas dans beaucoup de protocoles de thérapie génique, d'anticothérapie, autour de la période thérapie.
Travaillez-vous sur d'autres domaines génétiques lesquels? Alors, on travaille évidemment beaucoup sur le domaine des mitochondries. Hein, parce que l'univoque, au-delà d'être un traitement pour l'HOM, c'est une démonstration que la technologie qui a été développée à l'origine à la vision qui permet de corriger un défaut d'un gène qui est un gène mitochondrial, ben, ça marche bien. Et donc, il y a effectivement beaucoup d'autres maladies mitochondriales sur lesquelles aujourd'hui on s'intéresse. Pardon de dire, on est aussi une petite entreprise, on est avec des ressources qui ne sont pas évidemment infinies. Donc, pour le moment, on focalise nos ressources sur l'UMEVOC et GS30. Mais évidemment, au fur et à mesure que l'étau financier va pouvoir se desserrer, on va pouvoir vraiment avancer sur d'autres maladies mitochondriennes. Il y a d'autres maladies mitochondriennes dans la rétine. Il y a beaucoup d'autres maladies mitochondriennes dans le système nerveux central. Donc, la réponse à cette question est oui, pour le moment, à bas bruit, mais ça m'aimera. Comment se déroule le recrutement des études commerciales en Europe? J'allais dire bien merci. Vous avez vu qu'on a annoncé le recrutement des patrons des trois principaux pays, France, bien sûr, Allemagne et Royaume-Uni, et on est en train de finaliser le recrutement des patrons des pays en Italie et en Espagne. Et puis, il y a aujourd'hui d'autres recrutements qui se déroulent pour renforcer les équipes commerciales. Vous savez aussi qu'on se oriente vers une structure assez légère, hein, puisque c'est une maladie rare qui sera traitée dans un certain nombre de centres experts, des centres d'excellence, hein, comme les 15 à Paris, il y en a d'autres en Europe. On estime que probablement 3-4 centres par grand pays seront utilisés. Vous pensez avoir des partenaires dans les pays marchés où vous ne pouvez prospecter directement? Oui, bien sûr. C'est d'ailleurs des discussions qui sont en cours. Pour tout ce qui est les pays du pourtour méditerranéen, pour tout ce qui est les pays du Golfe, on a des discussions en cours, absolument. On réfléchit à avoir des partenaires pour tous les pays, par exemple la Russie et l'Europe, l'ancienne Europe de l'Est et partie de l'Europe. Mais voilà, c'est des discussions qui sont en cours. On a passé l'heure, je vais résumer les deux dernières questions. Alors, il y en a une. C'est vraiment là depuis le début. J'espère que celui qui l'a posé est toujours là, mais c'est vraiment pour Thomas. Et une qui est un peu pour moi, qui est la possibilité d'un rapprochement avec Pixium. Je pense qu'aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour. Je vous remercie des considérations que vous portez et à Gintat et à Pixium et à moi par votre conséquence. J'associe José à ça parce que je suis un cofondateur de Pixium. Mais voilà. Non, aujourd'hui, je pense que ce ne serait pas c'est pas à l'ordre du jour parce que, d'une part, ça nécessiterait d'avoir une masse de financement qui soit pour une société beaucoup plus importante, alors que la somme des deux financements levés par chacune des sociétés est probablement plus importante. Donc voilà. Et puis en plus, on est sur des technologies vraiment quand même assez différentes. Donc je pense pas. Mais le futur lointain, je ne sais pas. Mais en tout cas, aujourd'hui, à court terme, puisque la question est à court terme. Non, ce n'est pas à l'ordre du jour. Alors, juste la concurrence chinoise, je pense que vous faites référence dans cette question à la société Neurox. On n'en sait pas énormément de choses, mais ce qu'on peut lire, comme vous pouvez lire, est assez flou, assez vague et assez étonnant. C'est une société qui s'est créée sur la base de résultats qui ont été obtenus par une université en Chine, qui a fait des essais en pompant, là je pense qu'on peut le dire, d'ailleurs ils le reconnaissent dans leur première publication, la construction qui avait été faite, qui est la construction d'ailleurs du Univoc, qui vient de l'Institut de la Vision. Et puis ensuite, ils ont fait un essai un peu plus large, toujours avec cette construction, toujours en Chine. Alors, évidemment, en Chine, même si notre brevet venait en Chine, il suffit de changer deux, trois toutes petites choses pour pouvoir échapper au brevet. Et puis, alors c'était toujours l'université. Puis récemment, il y a un an, ou peut-être 12 à 18 mois, je ne me souviens plus exactement, on a vu apparaître cette société qui s'appelle Neurox. Qui est allé à New York, qui maintenant prétend faire un essai dont on n'a pas compris si c'était un essai de phase 1, phase 2, phase 3, ou tout combiné à la fois. Je ne peux pas vous en dire grand-chose. Je pense simplement, et peut-être de façon la plus directe possible, c'est de dire qu'on est très, très, très en avance par rapport à eux. C'est-à-dire par rapport aux autorités réglementaires européennes, nord-américaines, japonaises et autres, il va falloir qu'ils mettent beaucoup d'efforts pour arriver à obtenir les résultats qu'on a. Donc voilà, je ne suis pas particulièrement inquiet de cette concurrence. Il est possible qu'ils aillent sur le marché chinois, mais aujourd'hui, le marché chinois pose la question du prix des médicaments de thérapie génique sur le marché chinois. Et voilà, même nous, on se questionne sur l'intérêt véritablement d'un marché où où les prix seront extrêmement bas. Et la dernière question, c'est quand même pour notre directeur financier, quand même, votre directeur financier, c'est envisagez-vous une cotation à Wall Street, envisagez-vous une augmentation de capital dans les 6 mois, si vous sous quelle forme, est-ce que les petits porteurs pourront, j'imagine que PP ça veut dire petit porteur, pourront aussi participer. Merci pour cette question, Thomas.
Alors, il y a plein de questions dans la même question, mais en gros, bon, il n'y a pas de secret. On a parlé d'un double listing au Nasdaq depuis un bon moment maintenant. Vous savez que c'est dans nos projets. On attendait le bon moment pour le faire. Clairement, le bon moment, c'est les résultats de Reflect qui vont, sous réserve du crédit limiting, nous ouvrir la fin du parcours réglementaire aux États-Unis. Donc, oui, il y a un double listing au Nasdaq dans les tuyaux. Il est assez peu probable qu'il soit cette année, il est très probable qu'il soit sur le début de l'année prochaine. Est-ce qu'il y aura une petite augmentation de capital entre-temps? C'est assez probable aussi, plutôt sur la toute fin d'année. En général, quand vous faites un double listing au Nasdaq, vous faites un petit tour avant, qui s'appelle un tour de crossover, où vous faites rentrer quelques références américaines qui rentrent avant et qui ensuite servent de lead et de référence dans le double listing en attaque. Donc c'est prévu. Est-ce qu'on fera participer les petits porteurs? Alors jusqu'à aujourd'hui, c'était techniquement et réglementairement pas possible pour diverses raisons que je ne vais pas expliquer, qui sont un peu compliquées et un peu longues. Mais on ne le faisait pas parce qu'on ne pouvait pas. Et aujourd'hui, il y a effectivement un nouvel acteur qui vient de lancer en France une offre qui s'appelle Primary Bid, avec qui on est en contact, hein, qu'on a rencontré, et qui permet de faire participer des petits porteurs à des placements privés qu'on appelle Accelerated Book Building. Donc c'est ces placements privés qu'on annonce à 18h, qui sont fermés à 20h et qu'on annonce le lendemain matin, pendant que la bourse est fermée. Donc les particuliers ne peuvent pas y participer. Eux, ils ont monté une plateforme qui permet, en collaboration avec des brokers, type Bourse Directe et des choses comme ça, Boursorama, de participer à ces opérations. On va y penser, c'est pas une mauvaise idée. Nous, on aimerait évidemment offrir la possibilité de participer aux augmentations de capital pour une petite partie réservée. Donc, je vous le promets pas. De toute façon, la décision n'appartiendra pas complètement.
Merci Thomas. Ben, je vous remercie tous. Alors, on a dépassé l'heure, donc merci d'être resté jusqu'au bout avec nous. Je vous vraiment merci beaucoup José d'être resté aussi longtemps avec nous. Et merci à tous pour votre soutien, c'est très important pour nous et j'espère effectivement qu'on pourra vous donner une petite place dans cette augmentation capitale si elle a lieu, évidemment quand elle aura lieu. Merci et à très bientôt.